Arsène Sabaniev, un patriote franco-ukrainien.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
Sauver la vie de ces hommes, ces héros, ces défenseurs de l'Ukraine, c'est l'engagement que s'est fixé dès février 2022. Il y a 2 ans exactement, Arsène Sabaniev, héros tranquille, à l'entendre, un simple médecin civil engagé dans le bataillon des hospitaliers. C'est l'histoire d'un patriotisme qui ne se négocie pas pour ce franco-ukrainien parti rejoindre le pays des conifères, le parfum étant plutôt celui des crimes de guerre russes. Comment soigner sur un terrain de guerre? Comment vivre les conditions extrêmes du front? Comment respirer, dormir sous la menace permanente des obus? L'Europe a-t-elle les moyens de continuer à soutenir l'Ukraine? Les médias occidentaux en ont-ils définitivement fini avec le narratif russe? Une série de questions urgentes abordées dans ce témoignage qu'il signe avec Éric Dussart chez Robert Laffont, intitulé « La liberté ou la mort ». Avec une énième interrogation, l'affaire Alexeï Navalny va-t-elle éclairer différemment la guerre en Ukraine? Bonjour Arsène Sabaniev.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Écoutez, très très bien. Un plaisir d'être ici parmi vous. Merci pour l'invitation.
Vous ne me répondez pas du tout en langage militaire à cette question « Comment allez-vous ?»
Non, pas du tout. Je ne suis pas militaire. Non.
C'est vrai, mais vous revenez du front. Et il y a un langage précis que, pour répondre à cette question. Comment allez-vous? On peut répondre 4-5-0?
Alors, 4-5-0, chutele peatnol, ça veut dire que tout va bien. Je suis en sécurité. Sinon, pour dire à l'affirmative, on dit simplement dit plus. Plus.
Très codé. Est-ce que vous êtes prêt pour un portrait en sol majeur avec une première chanson des, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Aïda Maki, qui ont commencé leur carrière en 91, juste après l'indépendance de l'Ukraine. Pourquoi ce titre, Leleki?
Alors, les Khadamaki, c'est un groupe d'Ukraine de l'Ouest, qui ce sont des guerriers bandits ukrainiens au 16e, 17e siècle. Et les Leleki, c'est les cigognes. Il parle de la vie.
Oui. Et pourquoi vous avez choisi ce morceau?
Parce que je le trouve très mélodieux.
Et très ukrainien aussi.
Exactement. Il y a tous les instruments ukrainiens. Il y a... C'est un son que j'entendais souvent quand j'allais dans des restaurants à Lviv, où on mange ukrainien, où la décoration est ukrainienne et où il y a de la musique ukrainienne. Donc ça me parle.
Thank you. станція Торокожичі. Щоб не впасти, тримайтеся за поручі.
Bienvenue sur RFI et Lascavo Prosemo sur le quai du métro Arsène Sabaniev. Est-ce que ça vous rappelle éventuellement vos années à Kiev ?
Oui, tout à fait. Le fait d'entendre le bruit du métro à Kiev, ça me projette directement dans la ville de mon enfance, dans la ville où j'étais maintenant de fois. Puis j'avais à ressentir les odeurs, la population, les gens.
Vous y êtes resté, je crois, entre 1990 et 1999. À quoi ont ressemblé ces 9 années dans votre souvenir ?
Les années 90 sont très compliquées. À l'époque, c'était le chaos. Nos parents n'avaient pas de salaire. Le pays manquait de tout. Et donc, on a grandi dans une extrême pauvreté.
C'est le début de l'indépendance, hein ?
Exactement. Et puis, ça manquait tout. On passait d'un système communiste à un système plus ouvert. Donc, il y avait une désorganisation totale. Les magasins étaient vides. Nous, par exemple, pour manger, on partait le vendredi soir à la campagne en prenant des transports en commun. Une fois une demi-journée, hein, on arrivait tard le soir chez nos arrière-grands-parents. Et on repartait le dimanche soir avec, vous savez, les fameux sacs bleus en plastique énormes, rayés.
Les sacs tati.
C'est ça, avec plein de nourriture pour la semaine. C'est ce qu'on faisait, parce que c'était très pauvre.
Et bien, comment Idouma, Kanjuma, Ma.
Dans quelle langue parlez-vous au bébé ?
Arsène Sabaniev.
Moi, j'ai mon bébé, donc je lui parle en ukrainien. Afin qu'elle acquiert les premières notions de langue, les phonèmes, je lui parle ukrainien et puis la maman lui parle en français. Comme ça, elle aura les deux sonorités en tête.
Et vous lui chantez aussi ukrainien, des comptines ?
Oui, souvent, oui.
Quoi, par exemple ?
Alors, ce n'est pas des comptines, c'est plus des chansons populaires ukrainiennes, classiques, du 18-19e siècle.
Ah oui ? Par exemple ?
Bula u mene koniak, c'est une chanson sur les Cosaques. Qui ont tout perdu, qui ont perdu leur sabre, leur honneur, leur femme, mais aussi leur cheval.
Et ça fait comment avec l'air ? C'est pour votre petite Léonora.
Et була в мене коняка, та й коняка розбишака, була щабля, шей рушниця, шей дівчина чарівниця, була щабля, шей рушниця, шей дівчина чарівниця.
Merci Arsène. Alors, évidemment, quand on est dans l'histoire de la langue, là, je parle de l'enfant que vous avez été. Vous parliez évidemment russe quand vous étiez petit. Comment vous l'aperceviez, cette langue, enfant ? C'était pas la langue, c'était une langue normale ou c'était la langue de l'ennemi ?
Pas du tout. On était très proches. Il n'y avait pas de distinction entre le russe et l'ukrainien. Moi, je parlais russe, c'était naturel. Et finalement, c'est par l'hostilité des Russes, par leurs actions agressives très tôt, en fait, hein, que mon identité ukrainienne est née.
C'était à partir de quelle agression en particulier ?
C'était 2004, donc la révolution orange, qui était une révolution qui avait pour objectif de chasser un président corrompu qui avait truqué des élections. Et moi, j'avais à l'époque des amis russes, donc je leur disais « écoutez, c'est merveilleux ». Le peuple sort contre la corruption, contre ce système post-soviétique horrible, parce que les années 90, c'était très très dur. On va enfin changer de système, on va acquérir certaines valeurs occidentales, qui sont de bonnes valeurs. Et naïvement, je pensais qu'ils nous soutiendraient, mais non. Leur réponse, c'était de dire, c'est un complot américain, vous êtes manipulés, c'est George Soros, c'est le complot juif, et j'ai tout entendu. Hein. Et là, c'était un choc. Et c'est la première fois où je me suis fait insulter de bandériste à l'époque par des Russes. Alors je ne sais pas ce que c'est un bandériste à l'époque.
Maintenant vous savez.
Oui, maintenant je jure. Oui.
Bandera ?
Ah, maintenant je suis bandériste, pas de problème.
Dites-nous qui était Bandera ?
Vous savez, c'est compliqué de parler de l'histoire ukrainienne. on voit l'histoire par le prisme de Moscou, des archives russes. Et c'est en partie ce que j'ai envie de faire plus tard. C'est de faire découvrir notre histoire par nos propres historiens. Ils ont fait un travail merveilleux dès le début des années 90. Donc, si on parle de Bandera, selon l'historiographie russe, c'est le pire des nazis, de tout ce que vous voulez, etc. Mais il a une histoire un peu plus complexe. Parce que même si c'est un homme qui a lutté pour l'indépendance
ukrainienne,
qu'il a au début collaboré avec les Allemands, dans l'idée d'avoir une Ukraine indépendante, il s'est rapidement trouvé dans un camp de concentration jusqu'à la fin de la guerre. Son frère est mort à Auschwitz, au Buchenwald, je ne me rappelle plus. Mais ça, vous voyez, c'est des choses dont on parle un petit peu moins. On a tendance à retenir que ce qui n'arrange le récit russe, malheureusement.
Alors vous, vous êtes né donc à Kiev, Arsène Sabaniev. Si on parle un petit peu du terreau familial, j'ai relevé cette phrase dans votre livre. Vous dites « Ma famille paternelle de Sébastopol, des zombies au cerveau lavé, voilà ce qu'ils sont ».
C'est triste, mais c'est ce qu'ils m'ont montré. Parce que les liens familiaux sont très forts en Ukraine. Les miens étaient forts avec ma famille de Sébastopol. Et donc du jour au lendemain, donc en 2014, du jour au lendemain, je suis devenu un fasciste et mon père un nazi, ou l'inverse, peu importe. Et tous les liens ont été coupés. Et donc ils ont préféré croire à cette propagande russe qui disait que tout ce qui était pour l'Ukraine était horrible et qu'il fallait se détacher de tout. Donc c'est une forme d'endoctrinement qui est très poussée.
Au sein même des familles ukrainiennes.
Au sein même des familles, qui a fait qu'on a perdu contact. Mon père n'a plus de contact pareil avec sa mère depuis 2014.
Alors vous, vous arrivez, vous quittez l'Ukraine donc en 1999, vous arrivez en France. Comment vous vivez ce changement ?
C'est un petit peu difficile au début, parce que personne ne connaît l'Ukraine. En France, autrement que par Tchernobyl. Donc moi, même au début, hein, je dis que je suis russe et plus ou moins, les gens savent un petit peu me situer. Voilà. Puis je le fais sans que je parle russe, pour moi c'est assez naturel. Mais voilà, rapidement, mon identité ukrainienne s'affirme.
Et de toute façon, vous êtes scolarisé, vous rentrez dans le bain même d'une vie... Ah non ?
Oui. Mais bon, moi, ma scolarité, c'est assez chaotique. Malheureusement, l'école française n'était pas très faite pour moi. J'étais un très mauvais élève, c'était pas très adapté. Donc moi, j'ai pu me découvrir quand j'ai eu enfin la liberté, c'est-à-dire entrer en faculté, mais pas avant.
On est nombreux hein, dans ce cas-là, oui. Cela dit. Mais étonnamment, parce qu'on a échangé pour faire cette émission ensemble, vous m'avez dit, en fait, parce que je vous demandais si vous aviez des références comme ça, culturelles, françaises, liées à la France. Et vous me dites, je me réfère très très peu à la chanson française, au cinéma français, à la culture française, ce qui m'étonne, puisque vous êtes quand même en France depuis l'âge de 9 ans.
Ça peut pas être bizarre parce que là, je vous parle sans accent. J'ai l'air d'un Français comme les autres, mais quand je suis arrivé en France, j'ai vécu, continué à vivre avec ma mère. Chez nous, on n'échangeait qu'un russe. On continuait à vivre avec je veux dire, les chaînes de télé qui sont là-bas, même si voilà, quand tout le monde regardait la Starac, The Love Story. On n'a pas eu ce terreau culturel français parce qu'on n'était pas immergé dedans, je ne sais pas. C'était pour moi, la France est toujours restée une culture étrangère, pas au sens péjoratif du terme, mais c'est pas la mienne. Mais d'un côté, vous voyez, le fait que je sois en France et pas en Ukraine, ça m'a aussi déraciné. Parce qu'à chaque fois que je reviens, je vois des changements.
En tout cas, patriote un jour, patriote toujours. Et puisqu'on célèbre le triste anniversaire de la deuxième année de l'invasion russe en Ukraine, Rewind sur le 25 février 2022 à Kiev.
Bonsoir tout le monde.
Leader fraction tout.
Le chef de faction est ici.
Голова офису президента тут.
Le chef du bureau du président est ici.
Premier-ministre Шмигаль тут.
Le premier ministre Шмигаль est ici.
Подоляк тут.
Le conseiller Подоляк est ici.
Президент тут.
Le président est ici.
Всі ми тут.
Nous sommes tous ici.
Наші військові тут.
Nos militaires sont ici.
Громадяни суспільства тут. Всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде й далі.
Les citoyens de la société sont ici. Nous sommes tous ici défendant notre indépendance, notre pays, et cela restera ainsi.
Слава нашим захисникам, слава нашим захисниця. Слава Україні!
Gloire à ceux qui nous défendent, gloire à celles qui nous défendent, gloire à l'Ukraine.
Alors, qu'est-ce que vous ressentez, Arsène Sabaniev, en entendant ces mots du président ukrainien Zelensky? On est le 25 février 2022, alors que les soldats russes menacent de prendre Kiev.
Moi, je n'ai toujours les frissons quand j'entends ces mots. Et je pense que ça a donné beaucoup de courage à beaucoup de gens, ça a exalté le peuple, mais également c'est un message fort envoyé aux Occidentaux, qui avaient beaucoup peur de nous aider, en se disant, mais pourquoi les aider, pourquoi dépenser de l'argent si Kiev va tomber en 3 jours? C'est de l'argent perdu. Et quelques mots, vous voyez, peuvent avoir un pouvoir très fort.
Et qu'est-ce qu'ils ont eu comme pouvoir, ces mots, sur vous? Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, j'y vais?
Ah, je m'étais toujours dit j'y vais plusieurs mois avant, quand ça commençait déjà un petit peu à se militariser. J'étais allé voir mon chef de service à l'époque, c'était il me semble en décembre 2021.
Parce que vous étiez médecin dans un hôpital à Lille.
Oui, c'est ça. Donc déjà, moi j'étais en Ukraine en novembre 2021 et déjà les préparatifs pour la guerre commençaient à se faire. Donc en décembre, je lui dis écoute, si ça se passe, j'y retourne.
Ouais. Par devoir, vous diriez?
Non, parce que mon sens moral me le dicte, c'est très personnel.
Alors ce livre, La liberté ou la mort, qu'on va ouvrir ensemble pour un sol majeur, il est fort parce que vous souhaitez y rappeler à ceux qui en douteraient que contrairement à ce que dit Vladimir Poutine, vous n'êtes pas un seul et même peuple. Une nuance parlante que j'ai découvert en vous lisant, c'est qu'il n'y a pas, par exemple, dans la culture ukrainienne, le culte du chef.
Oui, si on compare juste à peine les 30 dernières années, alors que l'Ukraine a été russifiée pendant 300 ans, on voit que nous, on a eu à chaque fois un président différent, 2 révolutions en 10 ans. Les Russes, c'est une même continuité depuis 1999. On déteste les chefs en Ukraine, les Russes les adorent. Aujourd'hui, on voit que Poutine, et malgré tous les crimes commis, il reste au sommet de sa popularité.
Et ça se réfère, dites-vous, à la mythologie cosaque. J'ai regardé les paroles de l'hymne ukrainien. Ça dit, ça se finit par ces mots, pour notre liberté, nous donnerons nos âmes et nos corps et prouverons, frères, que nous sommes de la lignée des Cosaques.
Oui. Pendant des siècles, les Cosaques ont régné en Ukraine. C'était une société très libertaire, un peu anarchique, où chaque village prospérait de façon individuelle. Et quand il y avait un ennemi, que ce soit les Polonais, les Russes, les Tatars, les Turcs, tous les chefs de village se réunissaient et élisaient un chef, un hitman, pour les mener au combat. Et tout le monde partait. Donc c'était une société très, très, très égalitaire, contrairement à la société russe, qui a pris un tout autre chemin. C'est une société de serfs, où le servage a duré très longtemps, c'était une forme d'esclavage. Donc on a vraiment... dès le début, deux cultures très, très, très distinctes.
Au début de cette guerre, on a beaucoup entendu la propagande de Poutine parlant de dénazification de l'Ukraine. Mais vous, dans votre livre, vous dites que Poutine, qui joue les historiens, hein, il aime bien faire ça, parle, lui, de décommunisation. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là?
L'Ukraine, en fait, en 2014, a voté des lois de décommunisation parce qu'elle a placé l'idéologie nazie et communiste au niveau de la même échelle d'horreur. Donc c'est interdit. Sauf que Poutine dit que l'Ukraine est une invention de Lénine, le communiste Lénine. Et donc si vous voulez vraiment vous décommuniser, bah, l'Ukraine doit disparaître. Parce que c'est une invention du communiste. Et concernant la dénazification, il faut comprendre que chez les Russes, le nazi, c'est celui qui tue des Slaves, qui tue des Russes, pas que les Juifs. Et donc, quand un Ukrainien se définit comme Ukrainien et non pas comme Russe, il tue le Russe à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'il est nazi. Donc, c'est logique pour de dire que Zelensky, qui est juif, est nazi. Parce que de base, Zelensky, c'est un russophone très, très russe, qui se définit maintenant comme Ukrainien et qui parle ukrainien. Il a tué le Russe à l'intérieur de lui. C'est un nazi. Et il faut le comprendre dans ce sens-là.
B comme baptême de feu.
Dans ce livre, La liberté ou la mort, qu'on feuillette pour un sol majeur sur RFI, vous racontez, Arsène Sabaniev, comment, malgré votre vie en France, hein, parce que vous avez une compagne, vous avez un boulot à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille, donc en France, malgré tout ça, vous êtes décidé à rejoindre vos compatriotes sur le front, mais en même temps, c'est pas simple pour un civil, pour un volontaire, d'intégrer des associations ou même des hôpitaux. Vous racontez par exemple votre première rencontre avec l'hôpital militaire de Kiev, qui, dites-vous, est catastrophique.
Je pensais naïvement être bien accueilli et que la demande serait là, de leur part, mais c'était vraiment un parcours du combattant.
C'est le cas de le dire.
Dans les hôpitaux militaires, en fait, si vous voulez, toutes les structures militaires, ils avaient très peur qu'il y ait quelqu'un avec la nationalité française qui vienne et qui se fasse tuer. Parce que, voilà, ils avaient peur finalement que ça soit contre-productif, des Occidentaux viennent et meurent, et que ça refroidisse les relations entre l'Occident.
Ce qui est votre cas, vous êtes français.
Exactement. Alors moi, je suis venu qu'avec mon passeport français. C'est une garantie de sécurité. D'ailleurs, aux yeux des Russes, je passe souvent dans les médias russes, ils reprennent mes déclarations, je suis officiellement mercenaire français en Ukraine. C'est assez marrant. Donc les structures militaires ukrainiennes, c'est pas possible, à moins de signer vraiment un contrat, de légaliser tout ça. Les structures civiles, impossible non plus, parce que ben, c'est un autre système de santé, c'est un autre fonctionnement. Là, il se pose des questions de responsabilité. Donc, il y a une solution alternative, c'était les hospitaliers, les paramilitaires.
Avril 2022, vous arrivez à Tchernihiv, hein, qui est au nord-est de Kiev, qui est une ville à ce moment-là déjà totalement coupée du monde. Tous les ponts ont été détruits par les Russes. Et vous filmez un hôpital détruit pour montrer, je vous cite, la stratégie criminelle russe.
J'aperçois une zone résidentielle où tiennent encore trois immeubles éventrés. Une bombe FAP-500 y a été larguée, créant un cratère de 10 mètres de diamètre sur 4 de profondeur. Dans les débris, je vois les restes d'une mâchoire humaine, ainsi qu'une oreille à laquelle un bout de scalp est encore attaché. La haine commence petit à petit à prendre le pas sur la colère. Dernier jour en Ukraine. Je décide d'apporter le reste de mon matériel médical à l'hôpital de Borodianka, où l'ennemi a méticuleusement tout emporté dans sa retraite. La ville est devenue l'un des symboles de la terreur russe, et les destructions méthodiques ont attiré les journalistes du monde entier. En marchant dans la ville, j'aperçois près d'un caniveau un ours en peluche rose à moitié calciné. À côté se trouvent les photographies de mariage d'un couple ordinaire. En levant la tête vers un immeuble, on voit au cinquième étage l'intérieur d'une cuisine, dont la moitié s'est effondrée dans le vide. Cette insertion dans l'intimité des gens est macabre.
Un exemple de cette stratégie criminelle russe que vous décrivez pour un sol majeur, page 57 de La vie ou de la liberté ou la mort, avec vous, Arsène Sabaniev, qui allait parvenir finalement à vous faire accepter par un seul bataillon, celui des hospitaliers. C'est un groupe de secouristes semi-suicidaires courant en plein milieu des champs de bataille pour évacuer les blessés. C'est comme ça que vous les décrivez. Mais ils ont une histoire, les hospitaliers.
C'est comme ça en tout cas qu'ils ont été créés. Parce que lorsque la guerre a commencé il y a 10 ans, en 2014, il n'y avait pas d'armée. En tout, à peu près 5000 hommes pour défendre tout le pays, ce qui était largement suffisant. Donc, des volontaires sont allés dans les casernes de tout milieu. Des artistes, des médecins, des ouvriers, des reporters, tous sont partis. Mais ces bataillons... rapidement se sont confrontés face à l'armée russe et face aux séparatistes. Et donc, ils ont eu des blessés. Le service de santé des armées ukrainiennes n'existait pas, donc il y a eu effectivement des initiatives personnelles. Une jeune femme, Yana Zinkevich, a acheté une ambulance, s'est rapidement formée au secours de base et a commencé à évacuer les blessés de ses bataillons de volontaires. Enfin, elle a fait un petit peu de tache d'huile dans tous les bataillons de volontaires jusqu'à créer finalement un bataillon qui regroupait une centaine de personnes. Là, aujourd'hui, on doit être à peu près à 1000 membres.
Qu'est-ce que vous y faites, vous, personnellement, Arsène ?
J'ai effectué plusieurs missions avec eux. des missions à l'avant au sein des hommes. Donc on les récupère et on les amène dans les postes médicaux à l'arrière. On fait également un peu de médecine, de la bobologie, parce qu'il n'y a pas de médecin. Après, j'ai travaillé dans des postes médicaux avancés. C'est un équivalent, qu'on appelle, de déchoquage. Le but, c'est de déchoquer les patients qui sont très, très graves.
Comment on fait pour déchoquer ?
Ben, on applique nos protocoles en anesthésie, en réanimation. Ça se fait toujours en binôme. Le chirurgien qui essaie de lui de stabiliser, on va dire, la partie, une artère qui a pété ou un os ou un poumon perforé. Et puis nous, on fait tout le reste. On essaie de stabiliser le patient pour le transporter ensuite dans un hôpital plus à l'arrière où il pourra être opéré et avoir une chirurgie de sauvetage. Mmh. Donc moi, j'ai fait pas mal de choses là-dedans.
Alors, vous n'êtes pas un militaire, comme vous dites, mais vous vous êtes quand même retrouvé un beau jour au front. Est-ce que vous pourriez nous raconter rapidement votre baptême du front, Arsène Sabaniev ?
Il est très progressif. Mais il y a un événement qui m'a marqué, c'est qu'on entend au loin des bombardements, des avions qui passent. C'est stressant, mais vraiment, quand on s'est pris le premier tir dans notre maison, à quelques mètres de nous, on a eu des blessés. D'ailleurs, moi aussi, il y a quelques semaines de ça, j'ai fait une IRM et ils ont trouvé des petits morceaux de métal dans mon ventre que je ne savais pas, qui étaient probablement liés à ça. Et à partir de là, je me suis rendu compte que non, la mort n'arrive pas aux autres. Quand on s'est pris les premiers tirs, ensuite, là, ça a tout changé.
Alors, on vous suit dans votre quotidien. Lorsque vous croisez, notamment sur la route, des familles entières de déplacés, lorsque au sein des hospitaliers vous découvrez, et moi avec vous, le rôle des femmes dans la guerre. Que vous ont appris par exemple Tamara et Zoria ?
Alors, ce sont des femmes aux grandes qualités. Et il y a une certaine forme de dissonance quand on les voit dans la vie civile. Elles sont très jeunes, elles sont très jolies, très féminines, très douces. Mais par contre, ça fait des années qu'elles font la guerre. Et elles ne plaisantent pas. Elles sont très strictes, elles sont très rigoureuses.
Discipline militaire.
Elles sont très disciplinées, elles se font respecter de tout le monde. La clé de voûte, c'est les femmes. La commandante du bataillon, c'est une femme. Son second, sa seconde plutôt aussi. C'est tout un peuple qui se bat, donc on ne peut pas ne pas y inclure les femmes. Ce serait inenvisageable.
Moins tu en sauras, moins tu parleras. Je vous rappelle cette phrase.
C'est un adage très important, je l'applique encore aujourd'hui. L'idée de cette phrase, c'est de communiquer le strict nécessaire, le strict minimum, parce que nos communications peuvent être captées. Notre téléphone, voilà, on le met toujours en mode avion. Pareil pour les photos. Moi, j'ai pris quelques photos, mais très peu. Parce que la moindre photo prise et publiée sur un réseau social, c'est analysé par les Russes.
Ils peuvent vous localiser tout de suite.
C'est ça. Et ils peuvent, dans une heure, déclencher une frappe d'artillerie à ce niveau-là.
Alors, vous apprenez les mises en situation de combat. Je vous cite le froid glacial le matin, la chaleur étouffante l'après-midi, le gilet pare-balles qui fait mal au dos, et pour tout gueuleton, du bœuf séché et une bouteille d'eau tiède. Vous allez repartir en France à un moment donné, respirer pendant 2 semaines, puis vous revenez. Vous revenez toujours les bras chargés. Là, c'est avec du cassoulet, des cigares cubains, et puis un Ford Rangers financé par l'association nordiste Portail de l'Ukraine. Là, vous dites, Arsène, que vous vous sentez davantage prêt à affronter la guerre.
La nuit suivante, nous recevons une communication par radio.
Il y a un 300e.
C'est pour nous. Un 300e est un blessé dans le langage militaire ex-soviétique.
Il y a un 400e.
Il existe au moins 8 appellations différentes. Un 200e signifie un mort. Un 500e, un déserteur. L'origine de ce jargon remonte à la guerre d'Afghanistan. Seulement, un 300e ne nous dit rien sur l'état de gravité du blessé. Alors on a développé un code entre le pick-up, qui va le chercher sur la ligne 0, et nous qui recevons le blessé dans l'ambulance, à l'arrière. Ainsi, une petite tasse de café est un blessé léger, et un grand café chaud, un blessé grave. Ce dispositif nous permet de mieux nous préparer en attendant.
À l'occasion du 2e anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, en sol majeur sur RFI, accueille Arsène Sabaniev, médecin franco-ukrainien parti au front. Cette scène-là, qui fait partie de votre livre, la liberté ou la mort. Est-ce qu'elle se passe dans votre mémoire comme ça, à Keramik ou à Otcheretin, pardon pour l'accent?
Alors ça, c'est toujours à Keramik. C'est un petit village qui est sur la ligne de front. Et donc, on recevait des communications comme ça.
Alors, c'est intéressant, l'histoire du jargon militaire ex-soviétique là, qui est utilisé. Mmh. Et vous racontez que quand vous arrivez à un poste médical avec deux petites tasses de café, donc deux blessés légers, le chirurgien refuse de vous répondre parce que vous lui parlez russe.
Oh, c'était la seule et unique fois où un Ukrainien ne voulait pas me répondre parce que je lui parlais russe.
Mais pourquoi vous lui avez spontanément parlé en russe?
Parce que je suis plus à l'aise en russe, simplement. Alors l'ukrainien, maintenant, je le comprends très très bien, je le parle. Mais instinctivement, vu que c'est ma langue maternelle, c'est difficile de passer au russe. Mais même, vous savez, la majorité des soldats ukrainiens continuent de parler russe. Hein. Et voilà, après, il y a quelques ayatollahs de la pureté linguistique. C'est la langue de l'ennemi, mais bon, c'est pas une question linguistique. Hein, mais en soi, moi, je suis d'accord, il faut passer à l'ukrainien. Mais c'est simplement que dans ce contexte, c'était pas le moment. Oui. On lui amène des blessés. On travaille ensemble, on fait partie de la même équipe. Hein, il faut serrer les coudes. Ça sert à rien de m'exposer son idéologie. C'est pas le but, quoi.
C'est pas l'heure de faire du patriotisme. Exactement. Linguistique.
Oui.
C'est quoi votre surnom, alors, votre nom de guerre, on va dire, au front?
Alors, premier, c'est générique, c'était le français.
C'est pas terrible, ça, comme...
Bon, non, c'était pas terrible, c'est un peu comme je dis, générique. Et puis, l'image de la France était vraiment pas très, très, très belle ces dernières années. Donc, ça a rapidement été changé. Donc, je suis devenu le barman parce que... Moi, je suis anesthésiste, hein, moi, je suis un dealer diplômé d'État. Donc, mon travail, c'est de donner de
un dealer diplômé d'État?
Ouais, mon travail, c'est de donner de la drogue aux gens. C'est ça, le travail. Mais je les connais très bien,
c'est
mes drogues.
C'est très belle expression.
Ouais. Oui, c'est vrai. C'est exactement la même chose, sauf que je connais les doses.
Un dealer légal, quoi.
Exactement. Mm. Autorisé, légalisé. Et je faisais des cocktails analgésiens qui étaient assez puissants pour soulager les patients, qui marchaient très bien. Mais ils étaient tous étonnés de l'efficacité parce que les patients, ils étaient soulagés. Et ils continuaient de respirer, ils étaient dans un bon état. Et donc, ils m'ont appelé le barman, donc celui qui fait des cocktails.
Ça ne manque pas d'humour. Et il y a de l'humour en temps de guerre, c'est connu.
Bah, toujours, c'est obligatoire. Sinon, comment on tient?
Mais les séquelles d'une guerre, on le sait, on le devine, sont multiples. Mais vous, en même temps, Arsène, vous parlez d'une addiction à la guerre. Qu'il vous faut votre dose de déflagration dans votre sac de couchage.
Je pense que tous les militaires, même pas tous les militaires, tous les gens qui ont connu la guerre, que ce soit même les humanitaires, que ce soit les reporters, ils ont ce besoin d'aller là-bas parce qu'on ne se sent jamais autant vivant qu'en étant sur le front. Parce que toutes les règles disparaissent, alors d'autres, des règles de sécurité, prennent la place. Mais c'est fantastique parce qu'on a tous les droits, et même, faut le dire, on a le droit de tuer. Et quand on revient à l'arrière dans la société civile qui est si triquée, si normée, on perd quelque chose. C'est très très dur de nous retirer une liberté qu'on a acquise. Et là-bas, on dort quand on veut, quand on peut. La forme physique n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de vivre au jour le jour, de profiter.
Mais vous ne faites pas l'éloge de la guerre en même temps?
Pas du tout. Mais c'est l'impact psychologique que ça a, la guerre.
Alors, vous parliez de la France et de sa mauvaise presse en Ukraine pendant les combats. Justement, cette France, est-ce que vous jugez, vous, Arsène Sabaniev, qu'elle est aujourd'hui suffisamment encore aux côtés de l'Ukraine?
La France a fait un petit pas vers l'avant, mais qui est largement insuffisant.
C'est quoi ce petit pas?
De dire qu'on va soutenir l'Ukraine. En tout cas, sur le papier, dans la communication, on y est. Dans les faits, dans les actes. On n'y est pas du tout. Quand notre cher ministre de la Défense disait le mois dernier sur un plateau de télé qu'on pouvait être fier du soutien français parce qu'au lieu de produire 1000 obus par mois, elle en produisait 3000 par mois. On a multiplié par 3, c'était génial. Sauf que 3000 obus, c'est ce qui est tiré en 12 heures par l'Ukraine. Le journaliste lui a dit, vous savez, ce n'est pas grand-chose. Il m'a dit, oui, mais on doit être fier de ça parce que nous, on a le code du travail, on a de bonnes conditions salariales dans nos usines. Mais ce n'est pas le sujet, les conditions salariales des ouvriers qui produisent les obus. C'est la guerre, il y a des gens qui meurent.
Alors depuis quelques jours, la guerre en Ukraine a été légèrement éclipsée par la mort de l'opposant russe Alexei Navalny. Et je lisais la politiste Marie Mandras qui disait « L'élimination d'Alexei Navalny et la guerre en Ukraine sont les deux faces d'un système mortifère ». Ça, c'est pour le point de vue d'une politiste ici en France. Mais côté ukrainien, vous, Arsène, comment vous recevez cette élimination de cet opposant russe ?
Ça ne me fait ni chaud ni froid, parce que c'est le système russe. Que Navalny soit vivant ou mort, ça n'aurait rien changé, parce que le problème, ce n'est pas l'opposition en Russie qui n'a pas accès au pouvoir. Le problème, c'est la Russie en tant qu'entité impériale. Parce que Navalny au Kremlin agirait à peu près comme Poutine.
Ah oui,
Navalny l'a toujours dit, il faut d'ailleurs voir un petit peu le passé sulfureux de cet homme.
Oui, il a un passé ultranationaliste.
Exactement, sur la question de la Crimée, il est très sur les minorités ethniques, il est voilà, on connaît ses positions. Mais le problème, c'est la Russie. La Russie est une entité impériale et peu importe qui est au Kremlin, il faut simplement que le Kremlin cesse d'exister. Donc je n'ai pas... Oui, c'est effectivement la mort d'un homme est triste, mais en Ukraine, il y a déjà des centaines de milliers de morts. C'est Staline qui disait « La mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million d'hommes est une statistique ».
D'autant que pour rebondir sur cette phrase de Staline, j'entends les historiens dire à propos de Poutine, qu'il a cette vision de, il le dit quasiment dans ses discours, la Russie n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est en guerre. Alors j'aimerais vous faire entendre, Arsène, l'extrait quand même d'un documentaire qui est consacré sur Arte à Andrei Navalny, mais pour entendre sa voix, qui sera suivie de celle de Boris Yeltsin et Vladimir Poutine. Navalny, sur RFI, clap moteur.
Quand on est témoin d'une injustice, il y a ceux qui écrivent un article indigné, ceux qui détournent le regard et qui font comme s'il ne se passait rien, mais il y a aussi ceux qui estiment qu'il faut rectifier la situation. Moi, je ne peux pas rester sans rien faire. Je considère que chacun doit réagir.
Poutine lui a déplu dès le départ. Dès qu'il l'a vu, en 1999, il a tout compris et il a rejoint le parti Yabloko.
Aujourd'hui,
aujourd'hui, en ce dernier jour du siècle qui s'achève, je quitte mon poste. Je vais être relevé par une nouvelle génération. La génération de ceux qui peuvent faire plus et faire mieux.
Chers Russes, chers compatriotes, aujourd'hui, j'ai été nommé aux fonctions de chef d'État. Je vous souhaite une bonne année, un bon nouveau siècle.
Réalisé par Igor Sadrev, Alexei Navalny, l'ennemi de Poutine, c'est à voir en ce moment sur la chaîne franco-allemande Arte. Et dans votre ensemble majeur, Arsène Sabaniev, donc on entendait le président Yeltsin annoncer sa démission en 1999 et Poutine, évidemment, juste derrière, prêter serment. Et je voulais justement qu'on s'arrête une seconde avec vous sur l'année 2000, qui est un point de bascule à vous lire dans la propagande russe, avec son arrivée au pouvoir et surtout son concept sud-est. C'est un narratif du Kremlin qui sera d'ailleurs repris par les médias français. Qu'est-ce que c'est que ce concept sud-est ?
Alors, le concept de Yuga-Vostok, donc de Sud-Est, ça a été créé par les idéologues du Kremlin à la fin des années 90, début 2000, qui consiste à diviser artificiellement l'Ukraine en deux entités. Une entité qui serait soi-disant pro-ukrainienne, pro-Europe, pro-LGBT, ce que vous voulez, et une qui est russophone, pro-russe, pro-Poutine, etc. Le but, c'est simplement diviser pour mieux régner. Et donc, il y a toute une propagande très puissante. Et en France, ça s'est retrouvé.
Oui, le narratif a marché.
Mais bien sûr. On entend, en 2014-2015, quand il y avait la guerre du Donbass, on entendait régulièrement des éditorialistes nous parler. Oui, mais le Donbass, c'est pas pareil. C'est des russophones, ils sont russes. Et on reprenait, en fait, même moi-même, j'ai un petit peu été affecté par ça. Je pensais que dans le Donbass, tout le monde parlait russe, mais pas du tout. Dans les campagnes du Donbass, dans la banlieue de Donetsk, tous les gens parlent ukrainien. Moi-même, ça m'a étonné.
Est-ce que vous pensez que ce narratif, on en a fini avec ce narratif ?
Absolument pas, parce que ce narratif, il faut le remplacer par un autre. et lequel il n'y en a pas. Et le narratif ukrainien, il n'a jamais mis été en place.
Avant de refermer justement la liberté ou la mort, qui paraît chez Robert Laffont, une autre question. Si la France, demain, était en guerre, est-ce que vous seriez prêt, vous, le Français, à remettre votre gilet pare-balles ?
C'est une évidence. La question ne se pose même pas. Et beaucoup de Français le feraient. J'entends d'ailleurs souvent que, oui, les Ukrainiens, vous êtes patriotes, en France, il n'y a pas ça, les jeunes, c'est pas ça, non, non, non. Mais moi, je vais vous dire une chose, en 2014, quand la guerre a commencé, les Ukrainiens n'étaient pas plus patriotes qu'en France. Et je vais vous dire les choses franchement, même les cités, même les, on peut dire les racailles de banlieue, si demain on bombarde les maisons de leur mère, qu'on vienne chez eux violer leurs sœurs, même eux iront. Et si je n'espère qu'il y aura une guerre comme ça, évidemment que j'irai.
Quelle heure est-il dans votre vie ?
C'est une question un peu philosophique pour vous, Arsène Sabaniev.
Je n'ai pas la moindre réponse à vous apporter là-dedans. Je ne sais pas, ma vie peut se terminer demain. Je vis au jour le jour. Et dans 10 ans, je serai quelqu'un d'autre, si je suis toujours parmi vous.
Alors, vous vous référez peu, je le racontais au début de cet ensemble majeur, peu à la culture française, pourtant il y a une figure intellectuelle et pas des moindres, d'un autre siècle, c'est vrai. Mmh. Ben oui, qui vous a marqué, on n'a pas le temps d'entendre sa voix. C'est Jean-Paul Sartre qui vous aurait aidé sur la vision de l'amour. Mais il y a aussi, sous votre gilet pare-balles, une philosophe française qui s'est intéressée au courant marxiste anti-stalinien. C'est la fameuse Simone Veil. Et vous, Arsène, vous avez été séduit notamment par son essai sur la suppression générale des partis politiques. En voici un court extrait.
Pour apprécier les partis politiques selon le critère de la vérité, de la justice, du bien public, il convient de commencer par en discerner les caractères essentiels. On peut en énumérer 3. Un parti politique est une machine à fabriquer de la passion collective. Un parti politique est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres. La première fin et, en dernière analyse, l'unique fin de tout parti politique est sa propre croissance, et cela sans aucune limite. Par ce triple caractère, tout parti est totalitaire en germe et en aspiration. S'il ne l'est pas en fait, c'est seulement parce que ceux qui l'entourent ne le sont pas moins que lui. Ces 3 caractères sont des vérités de fait, évidentes à quiconque s'est approché de la vie des partis. Le 3e est un cas particulier d'un phénomène qui se produit partout où le collectif domine les êtres pensants. C'est le retournement de la relation entre fin et moyen. Partout, sans exception, toutes les choses généralement considérées comme des fins sont par nature, par définition, par essence et de la manière la plus évidente, uniquement des moyens.
Bon, pour quelqu'un qui n'a pas de référence culturelle française, waouh, non, magnifique, il faut, petit conseil en sol majeur, lire ou relire la suppression générale des partis politiques de Simone Veil. Un commentaire ?
Les partis politiques sont la religion du XXIe siècle, pour moi. On se base sur un dogme au lieu d'une doctrine religieuse. On espère que croire à la ligne du parti va permettre d'améliorer la société. Ce n'est pas très différent que le fait de croire à une religion. Il n'y a pas réellement de différence. Et c'est un logiciel d'asservissement et d'endoctrinement. Donc, pour ma part, je ne le cache pas, je n'ai jamais voté, et je n'adhérerai jamais à aucun parti. Ce sont des choses que je trouve aussi absurdes que de rentrer dans une église ou une mosquée.
Et l'amour dans tout ça, parce qu'on a parlé beaucoup de la guerre, mais il y a beaucoup d'amour dans vos yeux, ça se voit. En quoi Sartre vous a aidé à avoir une autre vision de l'amour ?
L'amour sartrien, c'est un amour qui est fondé sur la liberté. Parce qu'il part du constat que se mettre en couple, l'autre personne essaiera forcément de réduire notre liberté. Et que même la liberté doit même s'appliquer au sein du couple, la liberté totale. Mais ça, on pourrait encore en discuter pendant
une
heure.
Oui, la liberté ou la mort, en tout cas, ça sera ça la suite pour Anselme Major. Donc ce livre qui paraît avec vous, Arsène Sabaniev, chez Robert Laffont. Et contrairement à toutes les émissions qui sont consacrées à l'Ukraine, on ne va pas finir avec le célèbre poème de Taras Shevchenko, Le Testament. Parce que vous êtes philo, mais vous n'êtes pas poésie.
Non.
C'est ça ? C'est très étonnant. Hein ? Vous êtes plus lacrymosa de Mozart.
J'aime beaucoup, oui.
Pourquoi ?
C'est à la fois triste et puissant. C'est tragique.
Au générique de cet Anselme Major consacré à Arsène Sabaniev, un petit peu de comptine ukrainienne et beaucoup de liberté patriotique. Tout ça est à retrouver, vous le savez, sur votre appli Pure Radio en podcast. Caroline Filliette, Chloé Gomez, Théo Raison, Yasmine Chouaki. Demain, on file en Argentine au bras de Juan Ignacio Tula. Dans un instant, votre journal suivi de tous les cinémas du monde.